pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Il y a 15 ans, au mois de mars 2001, les talibans afghans se sont acharnés pendant plus de 2 semaines à faire exploser 2 grandes statues de Bouddha creusées dans la montagne, dans la vallée de Bamiyan, au centre de l'Afghanistan. Pour commencer, je peux vous faire entendre le bruit que ça fait quand ils les ont détruits, les Bouddhas. C'est de cette histoire que je vous parle cette semaine. Les récentes destructions de Palmyre ont réveillé ces souvenirs douloureux. Le monde s'est ému à nouveau. Les motivations, à moitié fanatiques, à moitié politiques, des talibans et des soldats de Daesh ne sont pas très éloignées. En Afghanistan, il y a aussi une dimension ethnique de punition pour une région chiite habitée par les Hazaras, une ethnie haïe des talibans. Mais ce n'est pas tout. Ce que je comprends en me rendant sur place à Bamiyan, à l'occasion de ce triste anniversaire, c'est que la destruction de ces statues est avant tout symbolique. Et c'est pour ça qu'elle est si grave. Ce n'est pas seulement la mémoire du bouddhisme qui disparaît d'Afghanistan. Ces statues sont le symbole de la liberté d'expression, de la création, de l'imagination. Elles appartiennent à cet ordre-là. C'est ce que je décide d'explorer au cours de ce voyage. Ce dont je m'aperçois au bout de quelques jours sur place, c'est que leur vie symbolique continue à faire son chemin. On parle à Bamiyan des Bouddhas comme s'ils étaient encore là. On s'en sert pour parler de soi, du monde autour. On raconte des histoires sur leur création, leur destruction, on projette leur reconstruction, on leur prête vie. Salsol et Chamamma, c'est comme ça que s'appellent les 2 statues, donnent leur nom à des groupes de musique, à des cafés, à des équipes de sport, à des pâtes dentifrices. En creusant un peu, je trouve une histoire qu'on raconte encore aujourd'hui et qui dit qu'en fait, les formes ne représentent pas du tout des Bouddhas, mais 2 amoureux, une fille et un garçon, qui se sont enfuis pour vivre leur amour, puis ont été retrouvés par leur famille et transformés en statues, figées dans la pierre en guise de punition. Cette piste-là me plaît bien et je décide de chercher d'autres histoires d'amour, d'amants en fuite, d'amoureux heureux ou pas, qui font écho à cette légende. Ce n'est pas parce que c'est la journée internationale de la lutte des droits des femmes, mais en Afghanistan, on y revient toujours à la femme. Ce que voient les Bouddhas, donc, 2e épisode. C'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Angélique Thibault. Pour se figurer à quoi ressemble le paysage aujourd'hui, il faut imaginer 2 immenses trous, 2 niches creusées dans la montagne jaune ocre, dominant la vallée de Bamiyan, à environ 200 km de Kaboul. Tout autour, des petites grottes sur la même paroi montagneuse servent encore d'habitation troglodyte aux plus pauvres. Je commence par là.
En fait, quand je me suis mariée, je pensais qu'on irait vivre chez la famille de mon beau-père. Je ne pensais pas qu'on vivrait ici dans une grotte. On ne peut même pas mettre de chauffage, il n'y a rien à brûler ici. On ne nous a pas présenté. Je l'ai regardé, puis il a pris ma main et il m'a emmenée.
Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous l'avez vu ?
Je n'avais pas d'avis particulier. C'était mon mari, il fallait que je le suive.
Je continue ensuite un peu plus bas. Juste au pied des Bouddhas, il y a une maison carrée de la même couleur que les montagnes, avec une grande cour au milieu qui s'appelle Caravansérail. Je pousse la porte, c'est la fin de la journée. J'ai entendu dire que le propriétaire de ces lieux a un secret pas très bien gardé. En fait, on les voit les Bouddhas ou on ne les voit pas?
Dans le coin là-bas.
Ah oui, si on se penche vraiment, qu'on lève un pied et une jambe.
On peut voir les Bouddhas de certains points et pas tous. On peut voir le grand Bouddha par exemple.
Mais on dit toujours les Bouddhas, on voit les Bouddhas, on est à côté des Bouddhas, mais il n'y en a plus de Bouddhas.
Quand on dit Bouddha, on ne pense pas au Bouddha réellement, mais à l'endroit où ils étaient. Est-ce qu'il en reste en fait?
Comment vous appelez encore?
Je m'appelle Abdul Kholek. C'est un hôtel traditionnel ici. C'est seulement une partie de mon travail, ce type de tourisme. Parce qu'il y a des gens qui viennent uniquement pour voir le Bouddha et les paysages de Bamiyan. À côté de ça, ils aiment bien aussi avoir du bon temps. Donc on fait en sorte de leur permettre de faire les deux. C'est pour ça qu'on permet aux gens de confiance qui veulent se retrouver pour quelques minutes, pour boire un thé, on leur permet de se voir ici.
C'est-à-dire que vous permettez, par exemple, à une fille et un garçon qui ne sont pas mariés de venir dormir ici?
On leur attribue des chambres séparées. Mais après, on ne regarde pas vraiment ce qu'ils font. Après, ils peuvent se voir ensuite. Parce que même si on ne leur laisse pas cette possibilité-là, ils iront dans les montagnes ou dans les grottes. Alors autant qu'on leur permette. En général, les jeunes qui sont passés ici, ils finissent par se marier, puisqu'on leur offre un climat propice à la discussion et au calme.
Vous faites du tourisme amoureux.
J'ai étudié les manques qu'il y avait sur le marché et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'endroit où les jeunes peuvent se retrouver dans le calme. Alors, je me suis dit qu'il fallait construire quelque chose comme ça. De ce point-là, vous pouvez voir un peu le Bouddha.
Il y a des fleurs, il y a du vert, l'été,
quand les arbres sont fleuris et qu'il y a de la jolie lumière, les jeunes en profitent. C'est le paradis.
Et donc là-bas, on les voit mieux, il y a un petit coin au fond.
Là, d'ici, on voit mieux. J'ai même vu des gens qui passaient à côté des Bouddhas et qui crachaient parce qu'ils estimaient que ce n'était pas des choses à avoir ici. Ces gens-là pensent que ça vient des méchants. On ne devrait pas avoir ça ici.
Et vous n'avez jamais eu un problème avec des parents qui ont appris que leurs enfants étaient venus chez vous ou...
Je n'ai jamais eu de problème avec les familles. Mais par contre, les mollahs essayent de ralentir mon travail. Et par exemple, ils me menacent par les réseaux sociaux. Je reçois des messages sur Facebook des mollahs. Le temps est révolu où les parents choisissaient les conjoints et conjointes de leurs enfants.
Enfin, vous dites ça, nous, on connaît des milliers d'Afghans qui ne veulent même pas dire le prénom de leur femme. Voir la femme, si on est un garçon, c'est inimaginable. On a l'impression que vous êtes sur deux planètes différentes.
J'ai étudié la philosophie, en fait, à l'université de Kaboul, pendant 4 ans. Quand on étudie la philosophie, on change complètement de l'intérieur. Et on voit les choses tout à fait différemment. Je m'intéresse à Auguste Comte parmi les Français. Sinon, il y a aussi Hegel et Marx. Je me suis intéressé à Heidegger aussi. Il y a certains philosophes musulmans également. En ayant étudié ça, je considère que ces libertés sont importantes.
ça, qu'est-ce que c'est?
C'est des skis. Vous voulez parler du ski? C'est une boutique de ski.
Ah, c'est une boutique de ski. Attends, je vais regarder par la fenêtre.
Ah oui, d'accord, oui, il y a des vraies chaussures de ski, tout ça.
On vient juste de recevoir 50 paires de skis tout neufs grâce à une entreprise allemande qui nous les a livrés. Malheureusement, on n'a pas encore de remonte-pente mécanique. Mais les Suisses y travaillent. Ils nous ont promis qu'ils nous installeront ça bientôt.
Mais alors comment ils font pour faire du ski s'ils n'ont pas de remonte-pente?
On monte comme ça, à pied, jusqu'en haut.
On ne peut pas prendre un âne?
L'âne ne peut pas monter dans la neige.
Deux ânes?
Non, on ne peut pas monter avec des ânes. On monte à pied.
Ah, dommage, donc on ne peut pas aller skier, nous.
C'est trop tôt pour le ski. Mais tous les ans, on organise l'Afghan Challenge. Et c'est ouvert à l'international. Alors.
L'Afghan International Ski Challenge.
C'est justement pour ça qu'on l'appelle l'Afghan Ski Challenge. C'est parce qu'on n'a pas de remontée mécanique.
Une équipe de 10 à 12 jeunes filles participe aussi à la compétition internationale de ski de Bamiyan. Les mollahs locaux n'apprécient pas, mais sont un peu obligés de suivre. Il y a même un club de ski, Baba Everest Ski Club. J'ai toutes les infos si vous êtes intéressés. Un peu plus bas encore, en s'éloignant des montagnes, j'ai rendez-vous avec trois filles dans un café réservé aux femmes, où les hommes non accompagnés ne peuvent pas venir, mais où justement les jeunes peuvent aussi se rencontrer. Ces filles appartiennent à l'équipe nationale afghane de cyclisme féminin, qui a été retenue cette année parmi les candidats au prix Nobel de la paix. Elles sont toutes jeunes.
J'ai 23 ans. J'ai 14 ans. J'ai 15 ans.
Je les vois arriver avec leur vélo et leur tenue moulante islamique. Elles en jettent.
Je suis cycliste, je fais partie de l'équipe de cyclistes de Salsol et Chamama. À Bamiyan, en fait, il y avait les deux Bouddhas qui faisaient partie du patrimoine culturel. Il y en avait un qui était l'homme qui s'appelait Salsol et la femme s'appelait Chamama. Et comme on a une équipe de cyclistes composée de filles et une autre composée de garçons, l'équipe féminine s'appelle Chamama et l'équipe masculine, c'est Salsol.
Mais vous devez quand même avoir une tenue un peu islamique pour faire des compétitions.
Et en fait, à Bamiyan, comme on est quand même assez religieux, on ne peut pas faire de vélo sans le foulard. Nous, ici, on a l'habitude de dire que Bamiyan, en fait, c'est pas l'Afghanistan.
Ah, d'accord. Et vous avez des copains, vous, par exemple? Vous êtes déjà venu ici avec des garçons?
Je vais vous dire la vérité maintenant que vous me l'avez demandé. En fait, j'ai un petit copain, mais il habite pas à Bamiyan, il habite à Kaboul. Donc quand je vais à Kaboul, de temps en temps, je vais le voir. Mes parents savent que c'est mon ami, mais ils ne savent pas que c'est mon petit copain.
Et donc toi, ça te gêne pas de pas être mariée et tu te sens libre?
Bah,
et si tes parents découvrent?
Mes parents et ma famille en général sont plutôt très ouverts d'esprit, donc je leur dis, ils me diront que c'est ta vie et tu sais comment la mener.
Zakia, qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard?
Déjà, j'aimerais être libre plus tard et mon objectif, c'est de devenir professeur de parapente.
Et ta petite sœur, qu'est-ce qu'elle veut faire comme travail? Alors, j'ai compris que c'était ta petite sœur.
Je voudrais être pilote plus tard, pilote d'avion.
Ah, d'accord. Il y a des femmes pilotes d'avion en Afghanistan?
Oui, il y en a une ou deux.
Et toi, qu'est-ce que tu veux faire?
En
tant que cycliste, j'aimerais un jour faire le Tour de France et le gagner.
Et
j'aimerais faire mes études à l'étranger pour pouvoir devenir ministre de la condition des femmes.
C'est vrai que Bamiyan, ça n'est pas l'Afghanistan. Mais ça, c'est aussi un peu l'idée qu'on veut me vendre de Bamiyan. Toutes ces filles, ces cafés, ces clubs de ski et de vélo sont soutenus, encouragés et financés par des ONG internationales pour le Women's Empowerment. Tout comme la possible reconstruction des Bouddhas et la transformation de Bamiyan en Disneyland de l'art pré-islamique. La réalité ressemble un peu plus aux clichés répertoriés sur les femmes afghanes. On est devant le département des Women's Affairs, des affaires de femmes. Il y a des tas de gars qui sont là, qui interpellent. Je comprends que deux familles sont en train de se disputer le sort de deux jeunes gens, des amoureux qui se sont enfuis, comme Salsol et Shamama. La jeune fille s'est enfuie chez les parents du jeune homme, puis a été cachée dans un refuge secret par la famille du garçon.
L'histoire, c'était une fille qui voulait épouser un garçon, mais sa famille n'était pas d'accord. Donc elle est venue ici, au département, et ils l'ont orientée vers la maison des femmes. L'assemblée s'est réunie avec les responsables de la maison des femmes, et ils ont convaincu la famille de la fille de la laisser épouser ce garçon.
Et la fille, elle est à la maison des femmes, on pourra la voir alors?
Oui. Elle se trouve à la maison des femmes.
La femme ici, c'est comme les armes, c'est une extension de soi, une incarnation de son honneur, dans un sens mélangé avec virilité. On dit ici « namus »,« reirat » ou « abru ». C'est comme la neige chez les Inuits, il y a 100 mots en Afghanistan pour désigner 100 nuances d'honneur. L'honneur, c'est bien plus important que la vie, évidemment, surtout la vie des jeunes filles.
When I stir up worms, at the down. One is still sleeping.
Allez-y, je vous dirai où c'est. C'est juste à côté de la réserve d'eau, là où il y a le tunnel.
Mais c'est un secret, en fait, normalement, l'endroit où c'est, la maison où les femmes se réfugient.
C'est plutôt un secret gardé, en effet. Les gens savent qu'il y a un lieu comme ça, qu'on appelle la maison de la sécurité, mais très peu de gens savent où elle se situe. Très peu de gens peuvent y aller. La capacité d'accueil est de 12 personnes, mais malheureusement, on est souvent à 20. On est presque arrivé. Passer par ce côté, c'est plus pratique.
Là, c'est les routes plus en terre. Notre chauffeur et aussi le responsable des monuments, ça fait déjà deux que j'ai trouvé qui connaissent l'emplacement secret de cette maison secrète. Sébastien, bonjour monsieur. Salam alaikum. Une petite première cour, ensuite une deuxième porte. Voilà, on enlève nos chaussures. Okay. Ah, il fait très froid. Ok. Salam. Salam. Salam.
Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam.
Bonjour, je m'appelle Aogol. Mon père n'a pas voulu que je me marie avec un garçon. Alors je me suis enfuie avec lui et je suis venue ici. On est tombé amoureux comme ça, quand on s'est rencontrés. Il m'aimait et moi je l'aimais. On s'est vu une fois et on est tombé amoureux. Oui, la première fois que je l'ai vu. Puis on a commencé à chatter par le téléphone.
Awagul, en fait, n'a jamais vu son amoureux avant de s'enfuir chez lui. Il lui a demandé son 06 une fois. Enfin, ici, c'est un 07.
On a discuté pendant 2 mois. Je voulais le connaître et être sûre avant de faire ce que j'ai fait.
Elle lui a donné un bout de papier et c'est tout. Après, ils ont discuté uniquement au téléphone. La drague au portable en Afghanistan a pris des proportions étonnantes. Les garçons composent souvent des numéros au hasard jusqu'à ce qu'ils tombent sur une fille ou une femme qui accepte de leur parler. Et rien que ça peut se finir en mariage, rattrapé par les cheveux par la directrice de la maison des femmes. Awagul, bien sûr, c'est la jeune fille dont parlaient les deux familles tout à l'heure devant le bureau.
Il était notre chauffeur, en fait, de transport en commun. Et je suis montée dans son bus. On n'a pas parlé, il m'a donné son numéro. Et après ça, on était en contact par téléphone. Quand il m'a emmené avec lui, il a appelé sa mère pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Et sa mère lui a dit, amène cette fille à la maison. Donc je suis allée chez lui. Sa mère s'est occupée de moi comme de sa propre fille pendant la nuit. Et le lendemain, elle m'a amenée ici. C'était jeudi et on est samedi aujourd'hui.
Et vous n'avez pas hésité, vous n'avez pas eu peur ?
Quand on aime quelqu'un, on n'a jamais peur.
Qui est cette dame qui vient ?
C'est la directrice du refuge des femmes.
Finalement, le mariage sera conclu avec le chauffeur de bus. L'histoire de Zaina, elle, n'a pas encore de fin.
Je m'appelle Zaina. Quand ma mère était vivante, tout allait bien, mais quand ma mère est décédée, mon père s'est remarié et ensuite il m'a mariée de force.
Il l'a mariée de force à un garçon et son père lui-même a épousé la sœur du garçon avec qui il a marié sa fille.
Et c'est probablement pour pouvoir épouser la sœur qu'il l'a mariée de force.
Mon père ne m'a même pas demandé une seule fois si j'étais d'accord pour me marier avec lui ou pas. Jusqu'à l'année dernière, je poursuivais encore mes études. Non, quand on m'a mariée, mon mari ne m'a pas laissé poursuivre mes études. Il a un certain âge et il est très strict aussi.
Il a quel âge ?
Moi, j'ai 17 ans et mon mari a environ 45 ans. Il ne veut pas que je sorte de la maison, il ne veut même pas que... Enfin, dans le jardin.
Hein.
C'est des gens du pays, ils ne nous laissent pas poursuivre nos études.
Comment tu connaissais cet endroit et comment tu as fait pour t'enfuir ?
Un jour, j'étais allée prier et j'ai discuté avec une fille. Elle m'a donné un numéro de téléphone. Et j'ai hésité longtemps avant de venir ici, mais finalement, je me suis décidée. J'ai pas d'autre endroit où aller. Je suis obligée de rester ici.
Qu'est-ce qu'ils feraient tes parents s'ils te retrouvaient ?
Marc,
la mort, c'est tout. Je mourrai. Si je rentre à la maison, mon père me tuera, il dira que je l'ai déshonoré.
Najiba Ahmadi, la directrice, parfois obtient le divorce. Puis elle trouve un autre mari à la fille.
Donc là, on est dans le bureau de la directrice, avec un du thé. Noix, pistache, amandes, raisins, pois chiches séchés.
Je m'appelle Sakina, j'habite à Bamyan et en fait j'ai été violée et j'ai eu très peur de ce que dirait ma famille. L'homme qui m'a violée m'a menacée, alors je me suis enfuie. Ici, les gens sont très stricts. Quand j'ai été violée, j'avais peur de ce que dirait ma famille. Je me suis dit qu'ils penseront que j'ai fait ça volontairement, alors je me suis enfuie. Ce garçon était un médecin qui travaillait où je travaillais, à Kaboul. Et un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il m'a demandé de venir pour discuter du travail.
Qu'est-ce que tu faisais à l'hôpital, toi ?
Je faisais le ménage de temps en temps.
Le problème, c'est que cette jeune femme n'a pas de preuves pour avancer ce qu'elle dit. Donc ça va poser problème pour régler cette affaire.
J'ai peur de sortir maintenant à cause de cet homme, parce qu'il m'en veut d'avoir porté plainte et je n'ose plus sortir. J'ai peur qu'il me tue. Et je pense que ma famille, mes parents, mes sœurs, mes frères sont en danger à cause de cette histoire.
C'est un homme important ?
Oui, c'est un homme qui a de l'influence. Il est médecin.
Et si sa plainte n'aboutit pas, qu'est-ce qui va se passer ?
Si sa plainte n'aboutit pas, l'homme qui lui a fait ça pourra se retourner contre elle et porter plainte contre elle pour diffamation.
Qu'est-ce que tu vas devenir si cette plainte n'aboutit pas ?
Ma famille estimera que je suis coupable.
Il est possible que sa famille n'accepte pas de la reprendre chez eux en disant qu'elle a déshonoré la famille et qu'elle n'avait pas de preuves, donc qu'elle est forcément coupable.
S'il avait pu être jugé, la décision aurait été qu'il m'épouse. Et ça aurait été bien car je n'aurais plus eu peur de lui.
Tu ne penses pas que s'il t'a violé une fois, il aurait continué à te violer ?
Mais on serait mariés, donc ce ne serait plus du viol.
Donc ce que tu veux, qu'est-ce que c'est ton souhait aujourd'hui ?
Tout est une question d'honneur. Quand on n'a plus d'honneur, qu'est-ce qu'on peut attendre ?
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, ce que voient les Bouddhas, deuxième épisode, un reportage de Sonia Kronlund réalisé par Angélique Thibault, une série en partenariat avec l'ambassade de France en Afghanistan et l'Institut français de Kaboul et de Paris. Une journée spéciale, Mémoire de Bamiyan, aura lieu ce samedi 11 au Palais de Tokyo à partir de 14h à Paris, à l'initiative de ses partenaires. Débats, rencontres, projections, il y aura tous les artistes, les écrivains, les chercheurs qui sont allés à Bamiyan dans ce cadre, il y aura leur travail et encore plein d'autres choses. Le programme sur la page des Pieds sur Terre, sur le site de France Culture. Merci à Jean-Michel Marlot, à François Richier, à Pascal Hans, à Laurence Levasseur, à Madi Meraïn, à Guillaume Josseau, à Christophe Fontaine, à Najiba Ahmadi, à Mathieu Perrault. Et la traduction, c'était Eva Nassiri.